pense que Saint-Simon est une des sources de la littérature moderne, en ce sens qu'il y a certainement une lignée
Jean d'Ormesson
des grands chroniqueurs, et qu'on pourrait trouver, je crois, une lignée Saint-Simon-Proust.
Ça peut pas faire de mal.
Proust était un grand lecteur de Saint-Simon et on pourrait rattacher peut-être Chateaubriand à cette lignée, les chroniqueurs, les historiens passionnés et les peintres d'une époque avec des tableaux individuels extraordinairement brillants et des historiens qui sont en même temps très engagés dans l'histoire.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, 1675-1755.
Saint-Simon écrivait à la diable, pour l'immortalité, un caquetage de tabouret. Chateaubriand.
Saint-Simon a raconté sous Louis XV, en style Louis XIII, ce qui se passait sous Louis XIV, à la cour de Versailles, cette jungle de satin, ce pays-ci. Paul Morand.
Il est profondément chrétien, par conviction profonde et par raison sociale, mais n'a aucune charité chrétienne. Il est méchant en parole, mais incapable de vilenie. C'est un homme d'honneur et il le sera jusqu'à son dernier souffle. Pour moi, je suis persuadée qu'un homme de cette naissance-là, Dieu y regarde à deux fois à le damner. Madame de la Meilleraie.
Ça, c'est Catherine Salvia qui vient de le dire. Elle nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
L'aile gauche du château est occupée par les ministères. On y travaille aux affaires du royaume. L'aile droite accueille la cour. On y travaille à ses propres affaires.
Je ne veux qu'un rendez-vous avec le roi. Rien d'autre.
Rien d'autre, vous m'amusez. À Versailles, on vous appelle des solliciteurs.
Introduisez-moi à la cour. Versailles est ma dernière chance.
Mais vous êtes tous les mêmes. Vous arrivez à Versailles, la tête pleine de titres, de pensions, de charges. La cour, la cour! Ce mot-là vous grise.
Je suis né la nuit du 15 au 16 janvier 1675 de Claude, duc de Saint-Simon, et de Charlotte de l'Aubépine. J'ai pour parrain et marraine le roi Louis XIV et la reine Marie-Thérèse. J'ai toujours aimé mon nom. Je n'ai rien oublié pour élever tous ceux qui l'ont porté de mon temps. Au temps où j'ai écrit, surtout vers la fin, tout tournait à la décadence, à la confusion, au chaos qui depuis n'a fait que croître. Mon père, Claude de Saint-Simon, est fait duc par Louis XIII, qui l'appréciait pour avoir trouvé le moyen de changer de cheval à la chasse sans mettre pied à terre. Il suffisait de présenter au roi un cheval tête bêche. Ainsi, le roi enjambait un cheval frais, sans descendre de son cheval fatigué. Louis XIII appréciait aussi mon père, pour être le seul de ses amis, à ne pas baver lorsqu'il soufflait dans son corps de chasse.
Fait pair de France par Louis XIII, ainsi que le duc de La Rochefoucauld, Claude de Saint-Simon se précipite à Paris pour être le premier à enregistrer officiellement son titre. Il sera donc, pour toujours, duc et pair de France, passant pour l'éternité devant les La Rochefoucauld. Quand on est intelligent, il faut savoir se le faire pardonner.
Présenté à la cour à 16 ans, je suis admis, malgré ma petite taille, 1m52, parmi les mousquetaires aux chevaux gris. En 1693, j'achète une compagnie de cavalerie du Royal Roussillon. À Mons et Louvain, je fus impressionné par le nombre de morts. Sur le champ de bataille étaient demeurés des généraux, des gentilshommes et bien des soldats, dont les corps ont été les marches et les degrés de ces deux victoires. Au printemps suivant, une étonnante floraison écarlate de pavots couvrait la plaine d'un linceul.
C'est à cette époque que Saint-Simon se lie d'amitié avec Philippe d'Orléans, alors duc de Chartres, futur régent, du même âge que lui, et aussi avec Armand-Jean le Boutillier, abbé de Rancé, réformateur de la Trappe, qui deviendra son père spirituel.
«
Dès 19 ans, il commence à jeter sur le papier des notes, des réflexions qui deviendront plus tard ses mémoires.
Ma mère, qui avait eu beaucoup d'inquiétudes de moi pendant toute la campagne de Flandre, désirait fort que je n'en fixe pas une seconde sans être mariée. Je voulais une dot pour nettoyer mon bien, qui était fort en désordre, mais je n'entendais pas pour autant transiger sur la naissance. Les millions ne pouvaient me tenter d'une mésalliance, ni la mode, ni mes besoins, me résoudre à m'y ployer. Un duc se devait d'épouser une fille de duc. Un marquis récent est inférieur à un simple chevalier d'ancienne famille. C'est l'ancienneté qui prime. Je veux bien avouer que ma passion la plus vive et la plus chère est celle de ma dignité et de mon rang. Ma fortune ne va que bien loin après, et je la sacrifierai, et présente et future, avec transport de joie pour quelque rétablissement de ma dignité. Rien ne l'attend et si profondément avili que lorsque Louis XIV légitima ses bâtards. J'étais seul, sans appui, et je voulais un beau-père et une famille dont je puisse m'appuyer. Je demandais une des filles du duc de Beauvilliers, n'importe laquelle. C'était lui qui m'avait charmé et que je voulais épouser. Mais aucune n'était disponible. Je me rabattais sur la fille du maréchal de Lorge. Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge était blonde avec un teint et une taille parfaites. Elle a tenu infiniment au-delà de ce qu'on m'en avait promis, par tout ce qui m'était revenu d'elle et de tout ce que j'en avais moi-même espéré. Célébrée en 1695, leur union était celle des mariages des premiers temps. Et son mari...
C'est Saint-Simon qui parle.
Qui la respecta et l'aima toujours tendrement, eut le bon esprit de la consulter sur tout et le bon sens très souvent de la croire. Avec Madame de Saint-Simon, nous étions un, U-N-S, en toutes choses.
Une ombre de conséquences à ce bonheur conjugal, ils auront deux garçons presque nains que l'on qualifiera de bassets et une fille contrefaite.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Yeah.
En 1702, Saint-Simon quitte l'armée pour intégrer la cour, qui compte 1500 âmes, logées très petitement pour vivre à tout prix auprès du maître. Il y habite un trou d'entresol d'où il observe, il note, il espionne. Il y écrira plus de 8000 portraits.
Je pointai mon oreille et mon entendement sur cette cour infestée de démons qui grouille de matamores et de comédiens, de voleurs et d'escrocs, de catins et de pourris. L'odeur qui en émane n'est pas seulement due aux chaises percées, elle monte des âmes même. Madame de Castres, biscuit manqué, toute à tous. Couche était un homme de rien et du Dauphiné. La marquise de Charlus était toujours faite comme une crieuse de vieux chapeaux.
Monsieur le prince de Conti, dont le rire eût tenu du Brère dans un autre. La duchesse Sforza était un perroquet becquetant une cerise. L'archevêque de Rouen était un excrément de séminaire. Madame de Foy, la plus jolie bossue qu'on pût voir.
Tout frais de votre belle province, vous devez avoir un regard aiguisé sur les ridiculités de la cour.
Il est écrit « Ne juge point et tu ne seras point jugé ».
Vous pensez bien que si les évangiles étaient de quelque utilité à Versailles, cela serait venu à ma connaissance. Joignez-vous à notre partie, si le cœur vous en dit. Nous jouons à 10 sols le point.
Les boucles d'argent de mes souliers sont ma seule richesse. Mais vous pouvez les estimer de plus près, en vous courbant bien.
Ces mémoires ne sont pas faits pour y rendre compte de mes sentiments. En les lisant, on ne les sentira que trop, si jamais longtemps après moi ils paraissent et dans quel état je pus être, et Madame de Saint-Simon aussi. J'étais instruit exactement et pleinement d'une journée à l'autre. Madame la marquise de Sévigné est si aimable et de si excellente compagnie. Boudin l'était de figure et de nom.
Avoir pour but de mettre son lecteur au milieu des acteurs de tout ce qu'il raconte, en sorte qu'il croit moins lire une histoire ou des mémoires qu'être lui-même dans le secret de tout ce qui lui est représenté, et spectateur de tout ce qui est raconté. Qui eût dit que Fénelon était plus coquet que toutes les femmes, mais en solide et non en misère, que le comte de Brionne était de bonne famille, que le comte de Brionne était de bonne maison, mais d'un mérite qui se serait borné au jambon s'il fût né d'un père qui en eût vendu.
Je n'ai songé qu'à l'exactitude et à la vérité. L'historien est apocalyptique. Il a la charge de révéler ce qui ne demande qu'à demeurer enfoui. Qui eût dit que Vauban, bien que d'un extérieur féroce, jamais homme ne fut plus doux?
La cour est un langage, malheur à qui le parle mal. En ce pays-ci, on joue, on baille, on s'ennuie, on ramasse quelques misères les uns des autres, on se hait, on s'envie, on se caresse, on se déchire.
Que sollicitez-vous à Versailles?
La charge d'assainir les marais de la Dombe, un paradis pour les moustiques. La vie d'un paysan n'y dépasse pas 35 ans.
Pauvres gens. Comme un malheur ne vient jamais seul, leur simple évocation provoque l'ennui.
Louis XIV s'étudiait avec grand soin à être bien informé de ce qui se passait partout. Les espions et les rapporteurs étaient infinis. Le hasard apprend souvent par les valets des choses qu'on croit bien cachées.
Messieurs, sachez que j'ai nommé notre premier valet de chambre, M. Bloin, conseiller en notre Conseil d'État, commissaire général de la Marine, intendant de la Maison Royale, Terre et Seigneurie de Versailles.
Louis XIV prit ses ministres en dehors du cercle des grands, parce qu'il sentait bien qu'il pouvait accabler un seigneur sous le poids de sa disgrâce, mais non pas l'anéantir ni les siens. Au lieu qu'en précipitant un secrétaire d'État de sa place ou un autre ministre de la même espèce, il le replongeait, lui et tous les siens, dans la profondeur du néant, d'où cette place l'avait tirée, sans que les richesses qui lui pourraient rester le pussent révéler de ce non-être.
Cette charge nouvelle, sire, l'un de nous l'aurait volontiers acceptée.
Monsieur Bloin a notre confiance.
Les rois font des anoblis, mais non pas des nobles.
Jamais Louis XIV n'élèvera un roturier au rang ducal.
La souplesse, la bassesse, l'air admirant, rampant, étaient les uniques voies de plaire au roi.
Parmi tous ses amours, il n'aima jamais que soi.
Le nôtre, jardinier du roi, avait une probité, une exactitude et une droiture qui le faisaient estimer de tout le monde.
Bontemps, premier valet de chambre, était un grand homme, fort bien fait, qui était devenu fort gros et fort pesant. Sire, voici l'heure.
Le médecin de Louis XIV, d'Aquin, est remplacé par Fagon, une figure hideuse, un accoutrement singulier et singulier tout son vivre, asthmatique, bossu.
Trois et deux font cinq. Plus du 24e, un petit clistère insinuatif, préparatif et rémoliant pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur.
Alors ici, cœur sensible s'abstenir. Composition d'un clistère pour Louis XIV. Poudre d'écrevisse, poudre de vipère, tanin, tamaris et crottin de cheval.
La chaise percée de Louis XIV était un magnifique objet d'art, en aventurine du Japon, ornée de paysages et d'oiseaux en relief. À Versailles, ce chef-d'œuvre si ruineux et de si mauvais goût, j'ai rencontré à la toilette de la Dauphine, qui n'a jamais été belle ni rien d'approchant, Madame de Beauvais, dite Cato la Borgnesse, qui, vieille et chassieuse, portait encore la gloire d'avoir été près d'un demi-siècle plus tôt l'initiatrice du roi Soleil.
Jamais homme n'a tant imposé. Sous sa majesté hiératique, Louis XIV abritait un cœur originellement bon, mais une âme trop petite pour qu'il ne fût même qu'un assez grand roi. Sauf à la fin par sa constance dans le champ de ruines que la Providence lui avait destiné, voyant ses successeurs présomptifs successivement disparaître avec leurs épouses. Édentés, les gencives défoncées, le palais creusé d'un trou, l'extrémité des membres tordue par la goutte, une jambe attaquée par la gangrène, s'effaçant enfin devant la nécessité, résigné sans se plaindre, sans rien changer à ses façons d'être, à sa politesse, à sa ponctualité, à la tenue de ses audiences, à la régularité du conseil, il affronta son malheur avec une fermeté impassible et un acquiescement silencieux aux volontés de Dieu, accédant à une majesté enfin exemplaire parce qu'elle venait de l'intérieur. Cette fois, il fut grand.
Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Peut-être que je serai vieille, répond Marquise cependant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant.
En l'espace de 3 ans, entre 1711 et 1714, Louis XIV perdra dans la fleur de l'âge un fils, 2 petits-fils, une belle-fille et 3 arrière-petits-fils, décimés, dit-on, par la rougeole pourprée. L'espoir dynastique résidera dans un enfant de 5 ans. Le petit duc d'Anjou, futur Louis XV, fut bien mal, mais il en réchappa, sauvé par sa gouvernante, Madame de Ventadour, qui le fit inoculer.
Monseigneur le Grand Dauphin, fils de Louis XIV, bon imbécile, prince borné, sans vice ni vertu, sans lumière ni connaissance quelconque, radicalement incapable d'en acquérir, se noie dans la graisse et l'apathie. De caractère, il n'en avait point. Il était né pour l'ennui qu'il communiquait et pour être une boule, roulant au hasard par l'impulsion d'autrui. Il était inintelligent au possible, gros, mais pas entassé, du sens, mais pas d'esprit, un tissu de petitesse arrangé, doux par stupidité, avare à ses maîtresses, son peu de lumière éteint par son trop d'éducation, ayant pour toute lecture le carnet mondain et les nécrologies de la Gazette de France.
À sa mort, en 1711, nous y perdions trop pour être contents, nous y gagnions trop pour montrer du chagrin. Monseigneur le Grand Dauphin est mort, vive Monseigneur le Duc de Bourgogne, son fils aîné.
Il était né pour être grand. Au physique, il présentait autant de qualités que de défauts. Taille médiocre, visage long, nez de même. Les cheveux également châtains, crépus, bouffants, le regard perçant, souvent tendre, mélancolique aussi. Le bas du visage en pointe, les mâchoires mal ajustées avec les dents du dessus qui s'emboîtaient sur celles du dessous. Une épaule plus haute que l'autre, trop de jambes, le dos tordu malgré le collier et la croix de fer qu'on lui avait tôt appliqué pour le redresser avec des exercices appropriés sans y parvenir, si bien qu'il était bossu et qu'il penchait d'un côté en marchant. Il n'en montait pas moins à cheval, mais comme une godille. Hyacinthe Rigaud Lapin, chevelure au vent, en armure, barré du ruban de moire bleue de l'ordre du Saint-Esprit. À 18 ans, il inquiétait son entourage, tumultueux, arrogant, railleur, homme à vin, à viande, à chasse, à femme, joueur forcené, enragé de perdre, indocile, avec des bourrasques de violence, d'un caractère plus difficile à redresser que son dos. Là, pas de collier ni croix de fer. Entre 18 et 20 ans de cet abîme, sorti, grâce à Dieu, sous la férule de Monsieur de Beauvilliers, un prince affable, doux, humain. L'indocile devint un ange et fit augurer la promesse d'un règne idéal. Mais Dieu en avait décidé autrement. Il exerça sa puissance pour le châtiment de la France et la rougeole pourprée balaya la promesse. Le duc de Bourgogne succomba au mal, suivant dans la tombe la délicieuse poupée, sa petite duchesse, avec qui s'éclipsèrent joie, plaisir, amusement même et toutes espèces de grâces. Les ténèbres couvrirent toute la surface de la cour de l'année 1712. Dieu redouble ses coups, frappe les plus sensibles. Persévérerez-vous, sire, dans la surdité ?
Madame la duchesse de Bourgogne, régulièrement laide, avec une figure hideuse, était charmante dans le commerce, avec de l'esprit comme dit démon. Elle avait les joues pendantes, le front avancé, de grosses lèvres mordantes, des cheveux et des sourcils châtains bruns, fort bien plantés, des yeux les plus parlants, les plus beaux du monde, peu de dents et toutes pourries, le plus beau teint et la plus belle peau, peu de gorge, mais admirable, le cou long, avec un soupçon de goitre qui ne lui seyait point mal.
Le roi, qui ne pouvait se passer de la duchesse de Bourgogne, voulut l'emmener, enceinte, à Marly, contre l'avis des médecins. Elle fit une fausse couche, et je fus témoin, près du bassin des Carpes, de l'étonnante réaction du roi.
Est-ce qu'elle n'a pas déjà un fils ? Et quand il mourrait, est-ce que le duc de Berry n'est pas en âge de se marier et d'en avoir ? Et que m'importe qui me succède des uns ou des autres.
Je ne suis gré d'avoir jugé depuis longtemps que le roi n'aimait et ne comptait que lui. Avoir toujours raison est un très grand tort.
Madame la duchesse de Berry, née princesse d'Orléans, mariée au deuxième petit-fils de Louis XIV, est régulièrement laide et mathématiquement détestable. Dite princesse Joufflotte, dont les seules passions étaient la table et le lit, elle n'est qu'une garce qui a dans les yeux quelque chose qui fait craindre ce qu'elle a tenu. Elle rattrapa le temps perdu et devint aussi massive, aussi carrée que sa grand-mère, la princesse Palatine. En 1710, Madame de Saint-Simon devient dame d'honneur de Madame la Duchesse et acquiert ainsi un véritable appartement de fonction au château en lieu et place de leur trou d'entresol.
Tout jeune que j'étais alors, j'étais admis avec bonté chez Madame de Thianges, aussi belle et aussi méchante que sa sœur Madame de Montespan. Elle avait les yeux fort chassieux, avec du taffetas dessus, et une grande bavette de linge qui lui prenait sous le menton. Ce n'était pas sans besoin, elle bavait sans cesse et fort abondamment.
L'abbesse de Fontevraud, une autre sœur de Madame de Montespan, avait encore plus de beauté que cette dernière, et, ce qui n'est pas moins dire, beaucoup d'esprit. De ce fameux esprit Mortemar, fait de très fine ironie, d'intelligence amusée et de connivence élitiste. Esprit aussi subtil que mystique. Avec une douceur, des grâces et des manières qui la firent adorer à Fontevraud et de tout son ordre. Ses affaires l'amenèrent à la cour et elle y fit de fréquents séjours et souvent longs. Le roi la goûta tellement qu'il avait peine à se passer d'elle. Il lui portait une estime, une amitié que l'éloignement de Madame de Montespan ni l'extrême faveur de Madame de Maintenon ne purent émousser. Que les plaisirs des sens sont inférieurs à ceux de l'esprit.
Que les hommes ayant atteint ce pinacle du pouvoir ne soient pas capables de ne pas être des nigauds sur le plan sexuel, là réside pour moi le scandale.
Ne me dis rien.
C'est trop facile.
Pense à ceux qui t'envient. C'est le roi, mon ami.
C'est le roi, c'est le roi. Je suis cocu quand même. Ah, ça, mais le mari, ce me semble, a des droits.
Non, monsieur, il est père quand l'amant de sa femme est le roi Louis XIV.
Monsieur Marquis de Montespan.
Vous avez désiré me voir, monsieur? Je vous écoute.
Quand votre majesté...
Non, monsieur. Vous le prenez sur un ton que le roi ne peut pas admettre. Vous vous exprimez sur mon compte en termes discourtois. Mais vous allez plus loin encore. Et vous compromettez celle que j'ai choisie.
Mais, sire, c'est ma femme.
Assurément, mais vous la salissez. Et je veux désormais qu'elle soit à l'abri de toute souillure. Que monsieur de Montespan soit mis à la Bastille. Et qu'il lui soit versé tout de suite 200 000 livres. Adieu, monsieur.
Madame de Maintenon, une amphibie sortie des eaux de la mer... n'avait de suite en rien que par contrainte et par force. À l'égard des amusements, elle ne les put guère varier depuis qu'elle se vit reine. La fortune, pour n'oser nommer ici la Providence, maîtresse absolue du temps et des événements, les disposa en sorte que cette rivale abjecte à qui Madame de Montespan avait donné du pain, cette suivante, pour ne pas dire servante, supplanta sa bienfaitrice dans le cœur du roi en épousant morganatiquement Louis XIV.
Monsieur, frère du roi, n'aimait pas Madame de Maintenon. Ce n'était pas sa faveur qui le blessait, mais d'imaginer que la Scarron était devenue sa belle-sœur, cette pensée lui était insupportable. Petit homme, ventru, monté sur des souliers en échasse, il avait des rubans partout où il pouvait en mettre. Couvert de bagues, de bracelets, de perles, inondé de parfums, il n'avait que les mauvaises qualités des femmes. Le 8 juin 1701, il vint de Saint-Cloud dîner avec le roi à Marly. Tout se passa à l'ordinaire et monsieur y mangea extrêmement, comme il faisait à tous ses deux repas, sans parler du chocolat abondant du matin et de tout ce qu'il avalait de fruits, de pâtisseries, de confitures et de toutes sortes de friandises toute la journée, dont les tables de ses cabinets et ses poches étaient toujours remplies. Au sortir de la table, monsieur, d'un rouge enflammé avec les yeux étincelants, en un instant tomba en apoplexie. Son visage, ainsi allumé, fit dire à quelqu'une des dames que, à le voir, monsieur avait grand besoin d'être saigné. Tancred, son premier chirurgien, était vieux, saignait mal et même l'avait déjà manqué. Monsieur ne voulait pas se faire saigner par lui, mais pour ne lui point faire de peine, il eut la bonté de ne pas vouloir être saigné par un autre et d'en mourir.
Monsieur le duc du Maine, bâtard de Louis XIV et de Madame de Montespan, brûlant de la soif de régner, extrêmement boiteux, poltron accompli, de cœur, possède de l'esprit, je ne dirais pas comme un ange, mais comme un démon, auquel il ressemble si fort en malignité, en noirceur, en perversité d'âme. Mais sa noirceur est enrobée de toutes sortes de grâces qui peuvent charmer. Il s'aperçut de bonne heure des épines de sa position entre sa mère, Madame de Montespan, et sa gouvernante, Madame de Maintenon, que l'enlèvement du cœur du roi rendait irréconciliable. Il sentit en même temps que sa mère ne lui serait qu'un poids fort entravant, tandis qu'il pouvait tout espérer de sa gouvernante. Il entra donc dans tout pour hâter la retraite de sa mère et la presser de ne plus revenir à la cour, et s'en acquitta sans ménagement.
La reine n'est plus, Madame de Maintenon ne l'est pas, mais une troisième femme aurait mérité de l'être. La mort de Madame de Montespan fit bien plus de bruit, quoiqu'une personne depuis longtemps retirée de tout. Sa mort arriva fort brusquement le vendredi 27 mai 1707 à 3h du matin. Elle avait 66 ans. Monsieur le comte de Toulouse, homme fort court, met l'honneur, la vertu, la droiture, la vérité, l'équité même. Monsieur Dumaine, son frère aîné, qui le voyait aimé et estimé parce qu'il méritait de l'être, lui portait envie. Le comte de Toulouse, sage, silencieux, mesuré, le sentait, mais n'en faisait aucun semblant.
Marly, 29 juillet 1714. Coup de tonnerre. Les bras me tombèrent. Au mépris de toutes les règles et les droits, les lois du royaume les plus fondamentales, Louis XIV déclarait ses bâtards aptes à succéder à la couronne, à défaut de tous les autres princes du sang.
Ici, cœur sensible, s'abstenir.
César de Bourbon, duc de Vendôme, petit-fils illégitime d'Henri IV et de Gabriel d'Estrées, monstre hideux de grandeur et de fortune, sodomite notoire, vérolé, se torche le cul et vomit de même. Sa paresse était à un point qui ne peut se concevoir. Sa saleté était extrême. Il en tirait vanité. Il était plein de chiens et de chiennes dans son lit qui y faisaient leurs petits à ses côtés. Lui-même ne s'y contraignait en rien. Il se levait tard, se mettait sur sa chaise percée, y faisait ses lettres et y donnait ses ordres du matin. Là, il déjeunait à fond et souvent. Rendait autant, il rendait beaucoup. Il était grand mangeur d'une gourmandise extraordinaire, ne se connaissait à aucun mets, aimait fort le poisson et mieux le passé, et souvent le puant que le bon. Les jours de barbe, le même bassin dans lequel il venait de se soulager servait à lui faire la barbe. Quand le bassin était plein à répandre, on le tirait et on le passait sous le nez de toute la compagnie pour l'aller vider, et souvent plus d'une fois.
Monsieur le grand prieur de Vendôme avait tous les vices de son frère. Sur la débauche, il avait de plus que lui d'être à poil et à la plume, ayant le goût autant pour les hommes que pour les femmes, et d'avoir l'avantage de ne s'être jamais couché le soir depuis 30 ans que porté dans son lit ivre-mort, coutume à laquelle il fut fidèle le reste de sa vie. Sa poltronnerie reconnue était soutenue d'une audace qui révoltait. À sa mort, en 1712, tout ce qui était autour de lui s'enfuit et l'abandonna, tellement qu'il demeura entre les mains de 3 ou 4 des plus bas valets, tandis que les autres pillaient tout et faisaient leurs mains et s'en allaient.
1er septembre 1715, Le roi Soleil s'éteint et le lendemain, son testament est cassé. Son fils bâtard, le duc du Maine, ne règnera pas. Une régence est instaurée en la présence de Philippe, duc d'Orléans, le régent, fils de monsieur, frère du feu roi. L'amitié et la confiance qui nous unissaient, Philippe d'Orléans et moi, étaient entières. J'y répondis toujours avec le plus sincère attachement. Il avait reçu tous les dons, hormis celui de les mettre à profit. J'aimais ce prince sans l'estimer, et le prince m'estimait sans m'aimer. Il me disait
« Saint-Simon, vous êtes immuable comme Dieu et d'une suite enragée. »
Il était né ennuyé, homme de la faiblesse et de la facilité, totalement livré à un homme de néant, son précepteur et future âme damnée, Dubois. Un fripon livré à tout mensonge et à tout intérêt, à qui homme vivant ne s'était jamais fié, perdu de débauche, d'honneur et de réputation sur tous les chapitres, qui sentait le faux en tout et partout à pleine bouche. L'abbé Dubois, à mine de fouine, est si perverti que tous les vices combattaient à qui en demeurerait maître.
En 1692, le mariage de la seconde Mademoiselle de Blois, bâtarde de Louis XIV et de Madame de Montespan, avec le duc d'Orléans, futur régent, chef-d'œuvre du double adultère et de la sodomie, fut décidé. Mademoiselle de Blois, numéro 2, entrait ainsi fort de travers dans une famille tellement au-dessus d'elle, avec une belle-mère outrée, la princesse Palatine, et qui n'était pas femme à contraindre ses mépris. Pour parvenir à ses fins, le roi s'était aussi assuré la complicité du petit abbé Dubois et lui demanda de choisir sa récompense. L'autre, oubliant un instant sa finesse habituelle, osa demander d'être nommé cardinal. Et Louis XIV lui tourna le dos. Sous sa perruque filasse, le faux abbé devra attendre 29 ans le chapeau rouge, mais il l'aura. À l'aube du 10 août 1723, dans sa 67e année, le cardinal Dubois, creusé, usé jusqu'à la trame, décharné, blafard, agrippé au lambeau d'une vie cousue de luxure, de traquenard et de prébende, qui se dérobait dans la souffrance atroce d'un abcès gros comme un coin que la vérole lui avait planté dans la vessie, mourut à Versailles, sous le bistouri des chirurgiens du pu vomi par son abcès qui avait crevé.
3 mois à peine s'écoulèrent après la mort du cardinal Dubois. Le régent s'effondra dans son cabinet de travail à Versailles. Lui qui préférait la brièveté d'une apoplexie aux suffocations d'une hydropisie, il fut exaucé.
En 1719, Saint-Simon avait été envoyé en ambassade à Madrid. Il y était resté 3 ans. L'éloignement brise les mauvais ménages et renforce les bons. Non content de se passionner pour la politique, Saint-Simon y excellait.
La sœur de la duchesse de Berry, née princesse d'Orléans, qui a 12 ans, est livrée à la cour d'Espagne pour y être mariée au roi. Toute seule parmi tous gens inconnus, la petite princesse me reçoit sous un dais, debout, les dames d'un côté, les grands de l'autre. Elle me regarda et me lâcha un rot à faire retentir la chambre. Ma surprise fut telle que je demeurai confondu. Un second partit aussi bruyant que le premier. J'en perdis contenance. Enfin, un troisième, plus fort que les 2 premiers.
Je répète la sorte qu'avec l'amour je ne badine pas. Je suis démodée, il est facile de rire de moi. Dans ma ruelle, je tiens mon salon. À ma manière, je m'invente un nom. C'est moi la précieuse. C'est moi la rêveuse.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Eh bien, mesdames, que dites-vous de Paris?
Hélas, qu'en pourrions-nous dire? Il faudrait être l'antipode de la raison pour ne pas confesser que Paris est le grand bureau des merveilles, le centre du bon goût, du bel esprit et de la galanterie.
Mais pour moi, je tiens que hors Paris, il n'y a pas de salut pour les honnêtes gens.
C'est une vérité incontestable.
Il y fait un peu crotter, mais... nous avons la chaise.
Il est vrai que la chaise est un retranchement merveilleux contre les insultes de la boue et du mauvais temps.
Madame la duchesse de Bracciano, princesse des Ursins, camerera maior de la reine d'Espagne, plutôt grande que petite, brune, avec des yeux bleus qui disaient sans cesse tout ce qui lui plaisait, avec une taille parfaite, une belle gorge et un visage qui, sans beauté, était charmant, espionne pour la cour de France. Passagèrement renvoyée par Philippe V, roi d'Espagne, elle triomphe au bal à Versailles, se promenant en tenant sous le bras un petit chien que le roi ne dédaigne pas de caresser.
À la mort du régent survenu en 1723, le monde de Saint-Simon s'effondre, il quitte la cour. En 1734, il annote le journal du marquis de Dangeau, plaisant bouffon capable de rire aux éclats alors qu'après une bataille, on lui coupait la jambe. En 1739, il travaille assidûment à la rédaction de ses mémoires.
Il cesse d'écrire à la mort de son épouse bien-aimée, survenue le 21 janvier 1743. Il reprendra sa plume 6 mois plus tard pour dessiner d'une main malhabile une ligne de larmes sur la page interrompue.
Un grand loisir qui tout à coup succède à des occupations continuelles de tous les divers temps de la vie forme un grand vide qui n'est pas aisé ni à supporter ni à remplir.
Louis de Saint-Simon s'éteint le 2 mars 1755 à l'âge de 80 ans. On meurt comme on a vécu et il est rare que cela arrive autrement.
Mon testament, je veux que quelque lieu que je meure, mon corps soit apporté et inhumé dans le caveau de l'église paroissiale du dit lieu de la Ferté, auprès de celui de ma très chère épouse, et qu'il soit fait et mis à nous, crochets et liens de fer qui attachent nos deux cercueils si étroitement ensemble et si bien rivés qu'il soit impossible de les séparer l'un de l'autre sans les briser tous deux. Je veux aussi et ordonne très expressément qu'il soit mis et rivé sur nos deux cercueils une plaque de cuivre, sur chacun desquels soient respectivement gravés nos noms et âges, le jour trop heureux pour moi de notre mariage et celui de notre mort. Tout m'avait préparé à me survivre à moi-même et j'avais décidé d'en profiter.
Les vandales de la Révolution en décideront autrement et la tombe des Saint-Simon sera profanée en 1792. Vivre pour savoir mourir au monde.
L'idéal, c'est de mettre un intervalle entre la vie et la mort. Un seul but, le salut.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestugia avec Anne-Laure Cochet à la technique, a été préparée entièrement par Catherine Salvia, avec qui nous venons de faire cette lecture. Merci Catherine.
Merci Guillaume.
Merci évidemment à mes Rolls-Royce de cette émission, Estelle Gap, Laura Elmaki et Irène Menahem, qui continuent évidemment à travailler assidûment. À la semaine prochaine.